CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, que je salue. Bonjour Thierry.
Bonjour Billy.
Thierry, merci de nous recevoir chez vous à TNP. Vous êtes vice-président exécutif et managing partner, donc de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Soulier. Bonjour et bienvenue Frédéric.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes directeur des systèmes d'information adjoint en charge de la cybersécurité pour CMS Francis Lefebvre, avocat. Alors avant de parler de votre cœur de métier, on va découvrir un petit peu qui vous êtes. Frédéric, il y a un domaine que vous aimez beaucoup, c'est l'électronique. Comment c'est venu? Tout jeune, c'est quelqu'un de la famille qui vous a mis le pied à l'étrier?
Alors oui, effectivement, mon père avait un job autour de l'électronique puisqu'il travaillait chez Bull. Les plus anciens, effectivement, Bull y installait des librairies de disques. Donc effectivement, ça m'est venu de là. Et puis après, je me suis plus arrêté.
Voilà. Alors, comme vous étiez passionné par l'électronique, vous allez passer un bac F2. J'ai pas beaucoup de souvenirs. C'était quoi F2 ?
Électronique.
Électronique, bah justement. Et ensuite, vous allez partir pour l'ESI, SUP Info Montreuil. Et là, vous allez obtenir un master en ingénierie. En 2022, ça en est beaucoup plus tard, vous allez passer un MBA Management, Cybersécurité. Entre ces deux périodes d'études, on va voir votre parcours, mais pourquoi vous avez eu besoin en 2022, il y a deux ans, de passer ce MBA?
Eh bien, j'avais pris des fonctions de CISO, en fait, de manière un petit peu empirique, et il m'a semblé important de remettre des bases sur cette fonction-là et repartir et avoir finalement une prise de recul qui permettent d'aborder le sujet et la thématique beaucoup plus sereinement et avec un peu de culture, des bases finalement qui m'ont été apportées par les différents enseignants de ce MBA.
Alors, on va repartir à l'époque où vous obtenez votre master en ingénierie. Vous êtes d'une génération où on fait encore le service militaire.
Exact.
Ce qui n'est pas grave, hein, loin de là.
Non. J'ai fait un service militaire alors court parce que je suis développeur à l'époque en de formation. Et ils trouvent ça très 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 utile, alors que j'aurais dû être exempté de mettre effectivement dans des bureaux à développer différents logiciels, et notamment pour la réserve de la deuxième DB. Alors je fais encore appel à la mémoire des plus anciens, mais c'est une réalité.
Alors vous allez croiser et saluer par la même occasion, ça se fait quand on est au service militaire, un adjudant-chef qui va vous introduire auprès d'un grand distributeur informatique de l'époque qui était ISTA. Donc votre premier job, grâce à lui, ça va se faire à l'ISTA.
À ISTA, effectivement, là on remonte relativement loin, je prends des fonctions d'ingénieur technique et je vais faire le tour de France, déployer des équipements réseau pour commencer, et puis s'ensuit différentes fonctions jusqu'à travailler finalement sur l'externalisation d'activités auprès d'un acheteur qui m'a beaucoup formé, que j'ai cette opportunité-là finalement improbable, mais qui était très formatrice.
Alors, chez ISTA, ce que vous avez bien aimé, c'est que tous les 9-12 mois, à peu près, on pouvait changer de métier, comme on dit, et vous allez y rester 15 ans, et puis ensuite, il y aura l'aventure chez Servier, également pendant 16 ans. J'ai envie de dire que vous êtes d'une grande fidélité aux boîtes que dans lesquelles vous rentrez. 15 ans d'une vie, à chaque fois, c'est pas rien, hein.
Oui, alors tant qu'il y a des challenges qui sont intéressants, je dirais effectivement j'ai le goût du temps long et le goût du changement et de construire. J'ai beaucoup construit, beaucoup modifié, beaucoup, je dirais, industrialisé les différentes activités par lesquelles je suis passé. Et donc tant qu'il y a des challenges et que ça reste intéressant, pourquoi changer?
Alors, chez Servier, bien évidemment, on est dans le médical, dans le domaine médical. Il y a beaucoup de réglementations. Et après Servier, vous arrivez chez CMS Francis Lefebvre, où là aussi, il y a quand même un point commun. Elles sont différentes, mais il y a également pas mal de réglementations.
Effectivement, le métier d'avocat est régi par différentes obligations, réglementations, le RIN, le règlement international. qui finalement amène un devoir de rigueur et un devoir de secret, d'où la cybersécurité à laquelle on arrivera. Un devoir de secret assez poussé, puisque finalement les impacts d'une violation, mais comme dans beaucoup de domaines, peuvent être assez compliqué et grave pour nos clients.
Absolument. Alors Thierry, on connaît maintenant le profil de notre invité. On va se poser pas mal de questions. Je crois qu'au départ, on va parler de cette intelligence artificielle générative. Quel impact elle a sur les métiers d'avocat ?
Ah oui, parce qu'en fait, c'est un métier qui aujourd'hui était assez préservé et qui voit débouler des technologies qui demain vont permettre tout un tas de facilités, de services, de traductions, de greffes, de procédures numériques. Et il va falloir sécuriser tout ça. Vous vous sentez en capacité chez SAMS d'amener effectivement ces moyens de sécurité nécessaires pour que les avocats puissent toujours travailler en numérique et néanmoins conserver le secret des affaires de leurs clients?
Alors derrière le terme sécurité, il y a plein de choses qui s'y passent, qu'on peut y mettre. Alors bien sûr, la sécurité de la donnée, donc on en est tout à fait conscient et on s'attache à ce que les modèles d'entraînement, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit, ne soient pas nourris de nos données, en tout cas des données de nos clients, sans que ce soit très volontaire. Donc ça c'est le premier aspect important. Le deuxième aspect important, c'est l'hallucination. On a un certain nombre de cas, notamment un assez célèbre aux États-Unis où un avocat s'est présenté devant un tribunal avec une jurisprudence extrêmement bien faite, très crédible. Et puis le juge a cherché à la vérifier. Et il s'est avéré que c'est ChatGPT qui avait créé de toutes pièces cette jurisprudence. Donc effectivement, la partie hallucination et donc finalement le métier d'avocat, pour répondre à votre question, le métier d'avocat encore de beaux jours parce que l'intelligence artificielle, en tout cas dans le stade dans lequel on est, ne peut pas être à 100% fiable et on a besoin de cette expertise-là, acquise au travers que ce soit d'études relativement longues et puis d'expérience et de reconnaissance marché qui existent, pour pouvoir nous assurer que les arguments qui sont utilisés, que ce soit une plaidoirie ou pour conseiller, puisqu'on est plutôt sur des métiers d'avocat d'affaires, nos clients soient tout à fait pertinentes et avérées.
Et alors du coup, CMS le fait, vous avez mis votre informatique sur un cloud ou quel type de cloud ?
Alors on va terminer notre bascule vers le cloud au mois d'avril prochain, on va fermer nos data centers. Donc on est majoritairement SaaS, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'applications plutôt sur étagère, hein, pour parler vulgairement. Et puis on va avoir un SaaS public autour d'Azure sur lequel on a refonder complètement l'architecture pour être sûr qu'elle soit sécurisée à l'état de l'art et on a adopté les derniers niveaux de technologie avec tout ce qui peut être fait pour sécuriser en premier lieu la donnée, en deuxième lieu bien entendu l'identité puisque c'est un des chevaux de bataille et puis toutes les sécurités périmétriques qu'on peut imaginer.
D'accord, et donc dans cette technologie cloud, vous trouvez effectivement les voies et moyens pour implémenter donc toutes ces solutions que vos avocats vont vous demander demain. Est-ce que vous avez les talents pour les mettre en œuvre ? Est-ce que vous êtes plutôt, comme vous dites, assez dépendant des éditeurs ? Et est-ce que cette stratégie est assumée ?
Alors, la stratégie est très assumée, très clairement. On a les talents, on a une volonté d'internaliser nos talents pour pouvoir justement avoir la capacité de maîtrise en fait, des solutions qu'on peut mettre en œuvre.
Et donc, du coup, vous les investissez plus aussi bien sur la maîtrise effectivement de solutions maison ou plutôt sur la maîtrise des technologies, la cyberdéfense, puisque finalement, vous dépendez aussi d'éditeurs externes.
Alors, dans votre question, il y a plusieurs questions. sur la partie développement, si c'est ça la sous-question, on fait assez peu de développement. Si on rebondit sur l'IA, on va aller chercher à mettre en œuvre les technologies qui peuvent exister en les sécurisant et en les modélisant. C'est le principe du SaaS. En tout cas, sur la partie IA et IA générative, on vient travailler sur différentes couches qui vont permettre d'aller utiliser des modèles qui sont par essence déjà entraînés, mais sur lesquels on vient les enrichir avec des données soit maîtrisées publiques, soit complètement internes. Et puis, sur la partie sécurité, on a fait des choix qui sont des choix totalement assumés, avec les bons niveaux de compétences. Et c'est aussi pour ça que je suis allé en formation, pour prendre le bon niveau de recul et pouvoir avoir un avis extérieur, je dirais, éclairé sur les solutions qu'on peut choisir. Et on s'entoure d'experts et de conseils. Et d'ailleurs, on a travaillé avec l'AMP il n'y a pas si longtemps que ça, sur la partie GRC.
Oui, effectivement, et sur effectivement de la data. L'IA Act, vous en avez probablement entendu parler, il vient de sortir. Vous pensez que c'est plutôt une opportunité ou une contrainte pour le développement effectivement de nos IA nationales?
C'est plutôt une opportunité, et sans rentrer dans les détails, si on prend le parallèle avec le RGPD, et puis ce qui a pu être fait derrière la diffusion finalement de la philosophie du RGPD globalement dans le monde et ce que ça peut en sortir, on peut se dire que on a eu une opportunité de sortir du Far West, ou en tout cas d'essayer d'un minimum de le maîtriser avec ce type d'initiative, ce qui est plutôt une très bonne initiative au niveau d'Europe, puisqu'on n'attendait absolument pas que ça sorte aussi vite que ça.
Et on peut s'attendre que les cabinets d'avocats soient fort sollicités par toutes les IA, on va dire, non légales qu'on puisse obtenir demain sur le marché.
Donc, prudence. Merci de nous avoir éclairés. Merci, mon cher Thierry, pour vos questions. Je voudrais qu'on passe à table avec vous, mon cher Frédéric. Il paraît que vous cuisinez bien et que vous êtes très attentif aux produits. Prenez pas n'importe quel produit, c'est bien ça?
Tant que faire se peut, oui. Alors, j'ai des parents relativement épicuriens, donc effectivement j'ai pu hériter de ça, et il peut m'arriver effectivement d'aller passer quelques heures en cuisine pour aller partager des moments privilégiés avec mes convives et amis.
Est-ce que c'est vrai que lorsque vous avez l'occasion de lire une recette, si vous craquez sur la recette, il faut absolument que vous la fassiez en cuisine?
Absolument, je n'irai pas jusque-là, mais oui, en mais tout cas, quand bien même... je ne l'aurais jamais faite, c'est pas ça qui va m'arrêter, et je vais plutôt m'y mettre, oui.
Mm-hmm. Votre spécialité, c'est le pot-au-feu? Vos amis adorent votre pot-au-feu?
Alors, spécialité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, et la période aide, oui. Effectivement, on est en hiver, enfin. Oui, effectivement, j'en ai encore fait un la semaine dernière.
Et tout le monde était ravi,
exactement.
Quoi. Autre passion pour, cette fois-ci, c'est l'œil, c'est le regard, vous adorez la photo. Vous êtes en numérique aujourd'hui, bien évidemment, mais plus jeune, vous avez fait des photos argentiques.
Exactement, je les ai même tirées.
Vous avez même, et ça, c'était un sacré boulot de faire son tirage soi-même. Dites-moi, la différence entre l'argentique, qui a ce grain très particulier, qui donne une apparence différente aux photos, et la qualité du numérique, vous qui êtes un peu dans tous ces systèmes, si vous deviez en choisir un de système photo, ce serait lequel?
Numérique sans regret aujourd'hui. Il y a tellement d'opportunités et de possibilités, de capacités finalement à faire ce qu'on veut d'une image et lui faire dire ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de limite. On parlait d'IA. Mmh. J'ai pas envie d'aller sur l'IA de la photo parce que là c'est plus de la photo.
Bah non,
c'est de la génération d'images.
Mais oui.
Mais l'œil du photographe est aujourd'hui en numérique aussi important dans la prise de photo que finalement dans son traitement.
Et oui, parce que je pensais que vous alliez me dire l'argentique, puisque finalement ce que vous aimez c'est capturer des moments
exactement.
Précis et non pas les déformer. C'est bien ça.
La création...
Mais alors, on peut faire joujou quand même. Oh, ben on est bien d'accord. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir fait partager et votre vie professionnelle en nous parlant de votre métier et également ces deux passions qui sont la table et la photographie. Merci à mon cher Thierry de nous avoir invités, comme d'habitude, chez vous, chez TNP. C'est déjà la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précis pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.